Vous aimez la littérature?
Vous voulez essayer de faire de la littérature? Vous pouvez peut-être m'aider à trouver une solution.
Essayez de cambrioler un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un recueil de textes inédits d'un auteur, d'un sociologue, philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Sansot, qui a été très connu à une époque pour avoir publié un livre qui s'appelait « La poétique de la ville » dans les années 70, et qui, après avoir fait un long séjour universitaire à Grenoble, est venu finir sa carrière à Montpellier, à l'université Paul Valéry. Et Pierre Sansot a écrit des textes, dont un célèbre qui s'appelle « Les gens de peu », et où il a examiné effectivement cette marginalité progressive. Et ce recueil de textes dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce sont des textes qui posthumes, qui étaient sans doute prémonitoires d'un futur livre qui ne paraîtra malheureusement jamais. Et donc, le texte dont j'ai envie de vous parler, enfin le titre en tout cas du recueil dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, s'appelle « La marginalité urbaine ». C'est-à-dire que Pierre Sansot examine ce problème de la marginalisation d'une partie de la société ou d'une généralisation de la marginalité qui serait liée effectivement au concept de modernité et au fait qu'il y a une espèce de pression normative et disciplinaire grandissante et qui fait que le centre des villes cède le pas, dit-il, à l'implacable horizontalité moderne, la périurbanisation de la société, mais pas uniquement spatiale, mais y compris sociale, y compris politique, y compris morale, y compris idéologique, etc. Alors, pour vous expliquer un petit peu sa démarche, je vais tout simplement reprendre la conclusion d'un des chapitres de ce petit livre et qui permet donc de comprendre un petit peu la démarche, en tout cas intellectuelle, de Pierre Sansot. Il dit « Nous n'avons pas seulement cédé au plaisir de la description, il nous faut maintenant proposer les conclusions qui semblent être impliquées par de parallèles analyses. » Donc les six points que je vais vous énumérer vous feront comprendre effectivement un petit peu sa démarche. « Nous aurions pu sans doute poursuivre l'énumération et en fin de compte reconnaître qu'il n'existe que des marginaux. Dans ces conditions, une marginalité qui ne rencontrerait pas son contraire a-t-elle encore un sens ?» Le deuxième point, peut-être devons-nous avancer qu'il n'existe plus de centre. Et l'ayant reconnu, écrirons-nous qu'il n'y a plus d'excentricité. Si le centre, visible ou moins visible, c'est le palais, l'église, le moi, le père, Dieu, le savoir absolu, le cogito, les règles esthétiques ou morales, la terre de Ptolémée, il faut avouer qu'il a perdu sa crédibilité. Mais par voie de conséquence, la conscience de la marginalité en se répandant devrait disparaître à un niveau polémique. La redécouverte des surfaces libidinales, l'œuvre ouverte, l'apologie du bricolage, la transgression des limites, l'acceptation d'une parole éclatée, digressive, toutes les évasions et les dépossessions semblent nous inviter à une telle interprétation qui demeure bien théorique. Car persiste la plainte de tous ceux qui se disent marginalisés. Le troisième point, il y aurait donc dans cette récrimination une part de mauvaise foi, un détour stratégique, ou encore, malgré les apparences et les belles paroles, la norme continue de prévaloir, et elle apparaît d'autant plus insupportable que l'on conteste sa légitimité. Nous n'acceptons plus les faux-semblants, les consolations faciles, qui nous incitent à consentir à l'inévitable, qui ne nous semble plus tellement inévitable. Quatrième point, de façon ironique, la prévention et les secours que nous ne remettons pas en cause s'avèrent insuffisantes pour porter remède à la situation et en revanche, ils contribuent à la désigner publiquement. Ainsi, le débile et son double accompagnateur, le délinquant virtuel, puisqu'il y en a en nous de la délinquance en puissance, et le travailleur social, le vieillard et son animateur à danser, à faire la gymnastique, à narguer la mort. Cinquième point, il fallait bien, dit-on, puisque la population augmente, placer les individus territorialement et conceptuellement. Donc à côté de notre humanité contradictoire et multiforme qui s'estompe, nous prenons conscience de la catégorie parcellaire à laquelle nous appartenons et qui constitue toujours une segmentation de notre personnalité. Ainsi, au lieu d'être un homme qui, dans sa globalité confuse, vieillit tant bien que mal et appréhende son vieillissement à travers mille signes ambigus et minces, nous nous percevons comme appartenant au troisième âge et donc comme exclus à jamais du premier et du second. Certes, les sociétés traditionnelles se composaient de castes et parfois de classes d'âge, mais elles n'agissaient les unes aux autres dans une unité harmonique qui n'excluait pas la domination, en l'occurrence comment composer en un bouquet et en une totalité sociale, loubards, homosexuels, troisième âge, chômeurs, paysans, artistes, banlieusards, extrémistes de droite, qui en appellent tous à des sous-ensembles disparates. Sixième point, et dernier, dans toute société, Sartre nous le rappelait dans sa critique de la raison dialectique, il existe rareté en bien et excédant en consommateur virtuel. Cette vérité a pu être occultée et l'on a tenté dans certains régimes de mettre fin à ce constat amer. En période de crise, chacun en tant qu'individu ou en tant qu'il appartient à un groupe social appréhende à quel point il est de « trop », entre guillemets, c'est-à-dire que sa disparition, loin de créer un vide irrémédiable, apporterait un début de solution. Marginalité, cela évoquait excentricité ou anormalité. Cela peut maintenant se traduire par excès ou excédent.